Ouvrez vos Bibles en Psaume 119, Psaume chapitre 119. Aujourd'hui, nous allons voir du verset 121 au verset 128. S'il vous plaît, écoutez, c'est la parole de Dieu que nous lisons. J'observe la loi et la justice, ne m'abandonne pas à mes oppresseurs. Prends sous ta garantie le bien de ton serviteur, ne me laisse pas opprimer par des orgueilleux. Mes yeux languissent après ton salut et après la promesse de ta justice. Agis envers ton serviteur selon ta bonté et enseigne-moi tes statuts. Je suis ton serviteur. Donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. Il est temps que l'Éternel agisse. Il transgresse ta loi. C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or et que l'or fin. C'est pourquoi je trouve juste toutes les ordonnances. Je hais toute voie de mensonge. Prions. Notre Père Céleste, nous prions que tu bénisses ta parole que nous venons d'écouter. Nous prions que tu agisses dans nos cœurs, dans nos pensées, de manière à faire ta parole, à rendre ta parole puissante dans nos vies, afin que nous puissions, après l'écoute de ta parole, confesser que tout est par ta grâce, que nous puissions avoir une transformation afin que nous soyons semblables à l'image de Christ et que nous te donnons toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut noter. Mais quand nous considérons ces quelques versets ce matin, je voudrais juste vous rappeler que nous avions déjà étudié 120 versets de ce psaume chapitre 119. Et déjà 120 fois, le psalmiste a mis devant nous pour notre observation la parole de Dieu. Il se réfère à la parole de Dieu comme les statuts de l'Éternel, les préceptes, la loi de l'Éternel, dans chaque verset, 120 versets, il a toujours quelque chose à dire de comment la parole de Dieu est merveilleuse, comment la parole de Dieu est puissante, comment la parole de Dieu donne la gloire à Dieu, comment la parole de Dieu donne toute la louange à Dieu, la parole de Dieu, son effet. Si vous voulez vous imaginer un homme, un jeune homme, qui va vers cette jeune femme et qui demande, dis-moi quelque chose me concernant, et le monsieur va dire, ah, vous êtes jolie, belle, s'il dit ça une ou deux fois, mais s'il n'y a pas d'autres observations, cela va, et peut-être il faut dire d'autres choses, au lieu de dire qu'elle est seulement belle, il faut dire que peut-être elle lit beaucoup, elle est curieuse, elle est déterminée à apprendre plus de Dieu. Alors, le psalmiste nous prend dans le chapitre 119 de Psaume, il nous parle de la parole de Dieu. Et il dit, la parole de Dieu est merveilleuse. Et il utilise d'autres passages pour nous déclarer également le salut, la déclaration du salut. Et il nous rappelle ce qui est bon, ce qui est mieux et ce qui est meilleur. Et il nous rappelle à plusieurs reprises les idées qui ont été exprimées en Psaume 119. Nous allons voir quelques idées encore ce matin, mais je voudrais que vous nourrissiez vos pensées avant qu'on ne rentre en détail dans l'étude du jour. Et cela va vous permettre de pouvoir comprendre la parole de Dieu selon les vertus de Dieu. Donc il y a des lois qui nous disent que la Bible est juste une autre religion, un autre livre, non? Et cela nous détourne de ce qui est de Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit, à travers David, que la parole de Dieu doit guider nos cœurs. Nous devons lui accorder beaucoup d'attention, étudier ça, être fidèles dans notre observation et faire ce pourquoi nous sommes appelés. Nous allons subdiviser le passage en trois parties, du verset 121 et 122. Là, nous avons l'appel à Dieu, une prière faite à Dieu pour demander sa miséricorde. Ne me laisse pas, protège-moi. Les gens qui sont de l'autre côté sont prêts à me tuer, à me faire du mal. Et il y a beaucoup de formes de violence que nous voyons aujourd'hui contre la foi chrétienne. Quand nous vivons ici au Texas, il y a l'hostilité vis-à-vis de la parole de Dieu et partout où la parole de Dieu est prêchée parmi les incroyants. Et dans le verset 123 au verset 125, là, nous parlons du salut que Dieu va apporter et comment nous attendons le salut de Dieu. Et le verset 126 au verset 128, ici, le psalmiste affirme qu'il aime la loi de Dieu. Aimer la loi de Dieu. Il aime la parole de Dieu. Alors, nous allons garder la parole de Dieu et nous allons voir la beauté de la parole de Dieu. Nous allons chercher la délivrance vis-à-vis des faiblesses de Dieu et nous allons trouver son aide. Et donc, quand nous retournons au verset 121, David crie à l'Éternel comme si nous aussi, lorsque nous nous trouvons dans des situations difficiles, quand nous crions à Dieu en disant « Dieu, viens, délivre-nous de ceux qui veulent nous faire du mal », c'est comme quelqu'un a dit quelque chose un moment et puis cela est offensif et vous allez penser que les personnes là ne m'aiment pas, cette personne ne m'aime pas. Nous pouvons être consumés par ces choses, mais c'est vrai, parce que Dieu sait qu'il y a des gens qui méprisent Dieu et le peuple de Dieu. Il ne tolère pas voir des gens qui suivent Dieu. Et comme David dans ce petit passage nous parle de l'appel, du cri, et il dit Dieu, c'est mon, je n'ai rien fait de mal. Et comment est-ce que David a écrit le psaume 119 lorsqu'il parle de ces occasions où David se tient pour la justice pour le peuple de Dieu, et cela devient très offensif à ceux qui sont à l'extérieur. Et David dit que ceci, je l'ai bien fait, j'ai proclamé votre parole, j'ai suivi votre parole, j'ai fait ce qui est juste et bien, et j'observe la loi et la justice, ne m'abandonne pas à mes oppresseurs. Il dit qu'il faut me tenir, ne m'abandonne pas à mes oppresseurs. Prends sous ta garantie le bien de ton serviteur, ne me laisse pas opprimer par des orgueilleux. Il ne dit pas qu'on ne va pas connaître des difficultés. On va connaître des difficultés. Il y a des moments difficiles qui viendront dans la vie de chacun parce que Dieu veut cela. Et il n'est pas le roi grec qui dit qu'on va être là-bas et puis il va vouloir créer des difficultés, des défis, la destruction, les choses. Non, notre Dieu n'est pas un Dieu qui nous fait souffrir. Mais quand il permet la difficulté dans nos vies, c'est pour nous dire que nous avons besoin de cela. Cela doit nous secouer par moments. Nous avons besoin de voir nos défis. Nous avons besoin de regarder à lui pour de l'aide. Nous savons ce que ça voudra dire. Nous confessons. Et quand nous sommes forcés à faire face à la réalité que nous ne sommes pas nés pour avoir tout ce dont j'ai besoin, pour vivre. Et Dieu nous rappelle alors de la leçon qu'il enseigne à Job en disant que mes pensées ne sont pas vos pensées. Alors le psalmiste dit, il faut ne me laisse pas opprimer par des orgueillés. Il dit, ne m'abandonne pas à mes oppresseurs. Je veux être béni. Jacques dit que notre nature, nos défis, ça voudra dire que nous passions par le feu et que nous soyons plus raffinés. Vous voyez, donc tout ce qui est impur va être ôté et ce qui est pur va garder. Et donc, prends sous ta garantie le bien de ton serviteur, ne me laisse pas opprimer par des orgueilleux. Le psalmiste dit, il dit constamment, il dit, ne m'abandonne pas, ne me laisse pas. C'est pas parce qu'il pense que Dieu oublie, non, mais Dieu nous demande de proclamer cela. Il veut, le Dieu d'alliance, Il dit que Dieu, tu as fait l'alliance avec moi. Tu veux que je suive la parole de Dieu. Je suis homme. J'ai compris que c'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu nous a promis. Et nous lui rappelons ses promesses, les promesses qu'il a faites pour nous, pour que nous puissions avoir de la consolation et la confiance qu'il va accomplir ce qu'il a promis. Et cela nous rappelle de nous rappeler ce que Dieu a dit. Ce n'est pas parce que Dieu a une mémoire courte, mais c'est parce que nous voulons qu'il comprenne que nous dépendons de lui. Il dit, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, j'ai fait ce qui est bien selon ta voix. Il dit, ne leur permets pas de chercher ma ruine ou de me troubler. Je suis un homme qui est obéissant à la parole de Dieu. Je peux être juste. Être juste, c'est marcher dans l'intégrité. Il faut rester sur le chemin. Il faut faire ce qui est bien. Mais est-ce que je fais des choses selon la loi de Dieu? Ce que le psalmiste dit ici, protège-moi contre mes ennemis. Je suis fidèle à ta loi. Je ne suis pas parfait, mais je suis fidèle à ta loi. Seigneur, Éternel, sois avec moi. Et l'Éternel est devenu l'assurance pour lui. Et comme Christ est pour nous aussi. Il désire l'accomplissement de la promesse également. De l'accomplissement de la promesse de Dieu. Nous voyons également Job. C'est vrai que ce n'est pas mentionné, mais c'est la même expérience. Et nous commençons par voir la fin glorieuse que Dieu nous prépare. Après avoir attendu pendant longtemps, Calvin a dit que bien qu'il n'y ait pas de fin à ces calamités, bien que le désespoir soit là à tous côtés, mais il a lutté contre la tentation, mais il a gagné, il a remporté la victoire. Et le psalmiste dit, sauve-moi, sauve-moi. Mais au même moment, en voyant que le salut ne vient pas, il ne dit pas que je ne crois pas que les espoirs viendra, mais Dieu est toujours là. Dieu n'est pas fatigué. Dieu, sur certains événements, il ne met pas tout ce dont nous avons besoin comme si c'était sur un ordinateur spirituel. Non, pour dire que Seigneur, tu as dit que tu vas me donner le salut, donc donne-moi ça maintenant. Non, c'est lorsque Dieu a programmé ça lui-même et il sait que c'est le moment opportun pour toi, pour ta délivrance et autres, qui va te donner cela. Donc notre espérance repose sur la parole de Dieu, en sachant, en affirmant, en confirmant que nous croyons en cela. Le psalmiste attend, nous voyons qu'il attend, qu'il espère en l'Éternel, et comme il a témoigné qu'il a fait ce qui est juste. Nous voyons également dans le deuxième passage que nous voyons verset 123 jusqu'au verset 125, il nous parle de ce qu'il a comme espérance. Il dit dans le verset 123, mes yeux languissent après ton salut et après la promesse de ta justice. J'attends le salut de Dieu. Mes yeux languissent après ton salut. C'est-à-dire que le seul moyen pour avoir le salut, il n'y a pas un autre moyen pour que l'homme soit sauvé et délivré de la destruction. La seule espérance que l'homme a, le psalmiste nous dit que comme mes yeux languissent après ton salut. Donc il y a de l'impatience, un sens d'impatience lorsqu'il espère en l'Éternel, bien qu'il lève les yeux vers l'Éternel, mais cela paraissait comme si ce qu'il cherchait ne vient pas. Mais il ne se fatigue pas. Ses yeux languissent, mais il n'a pas abandonné. Et c'est la raison pour laquelle nous devons nous reconnaître et nous voir de la même manière. Parfois nous demandons, nous prions, nous supplions Dieu, nous demandons à Dieu de faire ceci, nous lui demandons de sauver telle personne, nous lui disons que je veux que tu me sauves pour faire ce qui est juste, mais C'est comme si ça ne marche pas selon le plan que moi-même j'ai fait pour Dieu. Mais Dieu nous dit, même Calvin nous dit, même lorsque nos yeux ne peuvent pas voir, sont fatigués de voir, il dit, mes yeux se tournent vers ton salut. Il dit, lorsque nos yeux faillissent, ses yeux pouvaient faillir, mais pas la parole de Dieu. La parole de Dieu ne va pas faillir. C'est pourquoi ceux qui s'appuient sur une telle promesse, la parole de Dieu, verront en temps voulu le salut de Dieu. Le fait que ses yeux languissent et continuent par chercher ne veut pas dire que Dieu ne va pas exaucer. Le psalmiste dit, moi, je vais continuer par attendre, je vais continuer par espérer, je vais continuer par avoir cette attente, cette confiance, en désirant l'accomplissement et la plénitude du salut. Après avoir espéré et attendu pendant longtemps, il est protégé du désespoir. Calvin dit que bien que quand il n'y aura pas de fin à nos calamités, il a lutté, il doit toujours continuer par attendre. Il doit venir au salut qui doit continuer pour la grâce de Dieu jusqu'à ce qu'il mette son peuple qui croit et que le peuple puisse avoir de salut. Quand nous parlons de l'espérance, le psalmiste dit qu'il est un homme d'espérance, d'espoir. Quand nous voyons ce passage, le psalmiste espère au salut de Dieu. Si nous ne comprenons pas bien cela, parfois nous pensons d'une manière folle que cette fille ne... Je ne vois rien d'autre, mais je pense que la beauté de la fille là va faire d'elle une bonne femme au foyer, non? Mais quand nous pensons à ce que nous désirons, je crois que quand je vais jouer à la loterie, Seigneur, que Seigneur me bénisse pour cela, pour que je puisse gagner cela et que je puisse prendre soin de l'église. Non. Il y a des gens qui utilisent ça d'une manière très fragile, non? C'est comme si c'est quelque chose que nous désirons. Nous espérons que cela se change en bien. Je crois que j'espère que tu auras de belles vacances. Non, c'est pas ce que le psalmiste dit. Le psalmiste, en parlant de l'espérance, espérer en l'Éternel, en attendant dans l'espoir du Seigneur, il faut être attentif. Nous devons comprendre les difficultés que ce mot veut dire. Cela voudra dire que c'est une attente dans la confiance. Quand il dit, par exemple, que j'espère en l'Éternel, et après la promesse de ta justice, il dit, ce n'est pas quelque chose que moi-même j'invente, ce n'est pas une chose que moi-même je veux faire accomplir, mais je laisse tout entre les mains de Dieu. L'espoir ou bien l'espérance va avec la foi. C'est comme si l'espérance est vers l'avenir, mais la foi est basée sur le présent, mais c'est l'avenir également. Mais la foi et l'espérance sont des mots qui ont été utilisés. Et comme le psalmiste attendait, il attendait tout en sachant que Dieu fera ce qu'il a promis faire. Et il était confiant en cela. Et dans le verset 124, il parle également de l'attente avec miséricorde. Et dit dans le verset 124, agis envers ton serviteur selon ta bonté et enseigne-moi tes statuts. Et ça, c'est ce qu'il dit. Il dit que je puisse, il faut me montrer la miséricorde. Montre-moi la compassion, l'amour, de telle manière que tu m'enseignes. Tu ne veux pas que je sois stupide, tu ne veux pas que je sois sans connaissance des choses de Dieu. Il désire que Dieu exauce et que Dieu lui montre la miséricorde, ce qui est ce dont on a besoin. Il dit, enseigne-moi. Il a demandé la bonté de Dieu et il a dit, il faut m'enseigner selon ta miséricorde. Il a cherché Dieu et également dans l'exercice de sa bonté et de sa miséricorde, de l'instruire dans la loi. Dieu est bon. Il dit, montre-moi ta bonté et ta miséricorde. Le désespoir est résolu par le Dieu de miséricorde. Nous cherchons Dieu dans l'exercice de sa bonté et de sa miséricorde, de l'instruire dans sa loi. Montre-moi ta bonté et ta miséricorde en m'instruisant dans ta parole. C'est ce que nous devons chercher, c'est ce que nous devons demander. Quand nous parcourons ce psaume, bien aussi que quand nous parcourons tous les psaumes et toute la Bible nous enseigne à comprendre que la parole de Dieu, le Saint-Esprit veut que nous puissions permettre à la parole de Dieu de changer la manière dont nous réfléchissons, la direction que nous suivons. Il demande à la grâce qui est gratuite. Nous sommes en besoin. Il demande la grâce gratuite, c'est-à-dire l'amour inébranlable de Dieu. Qu'est-ce que cela peut être? Enseigne-moi tes témoignages, enseigne-moi tes statuts, tes préceptes. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est un appel à l'instruction divine. Il dit, fais que je puisse comprendre ta loi, ta parole, pour que je puisse suivre tes voies. Sauve-moi, sanctifie-moi. Il demande la grâce gratuite, la grâce ferme, la souveraineté de Dieu, la grâce salvatrice de Dieu. Il dit, enseigne-moi tes témoignages, tes préceptes. Il demande, il fait appel à l'instruction divine, une demande de la lumière. Notre bonheur consiste sans doute à posséder la vraie sagesse, celle qui découle de la parole de Dieu. Quand nous comprenons la sagesse de Dieu, le devoir de Dieu, et par la grâce de Dieu, il nous enseigne, il nous introduit à l'enseignement de la parole de Dieu. Quand nous écoutons la prédication, nous lisons la parole de Dieu, nous passons du temps avec la parole de Dieu, et il nous donne alors la compréhension. Une chose est de savoir ce que ces paroles disent, mais comment est-ce que cela s'applique à nos vies? Comment est-ce que cela va avec nos vies chaque jour? Comment nous appliquons ça? Nous menons la vie conforme à cela. Le psalmiste dit, aide-moi à comprendre mes devoirs. Et en cela, nous savons que cela vient par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est esprit. Dans le catéchisme et la vie, on nous enseigne concernant la transformation des enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu rend la lecture et surtout la prédication de la parole de Dieu une chose convaincante. L'Esprit de Dieu fait de la lecture, surtout la prédication de la parole, un moyen efficace d'éclairer, de convaincre et d'humilier les pécheurs et de les chasser, de les chasser d'eux-mêmes et de les attirer à Christ, de les conformer à son image et de les soumettre à sa volonté, de les fortifier contre les tentations et les corruptions, de les édifier dans la grâce et d'affermir leur cœur dans la sainteté et la consolation par la foi en vue du salut. Il y a beaucoup de choses qui est dans ce catéchisme élargi de numéro 155. La nature de Dieu. Qu'est-ce qui fait que la parole de Dieu travaille, marche, et que cela puisse pousser, cela puisse changer, cela puisse transformer? L'Esprit fait de la lecture de la parole de Dieu, la prédication de la parole de Dieu, un moyen d'éclairer, d'illuminer, qui dirige, qui pousse, fait une œuvre de transformation de Saint-Esprit. Et comme nous sommes changés par la parole, l'Esprit, dans le catéchisme élargi 58 et 59, comment est-ce que nous devenons des participants des bénéfices, des avantages que Christ a fait pour nous? La confession dit ceci. Comment est-ce que cela devient notre partage? Et la réponse est, comment sommes-nous rendus participants des bienfaits que le Christ a procurés? Nous sommes rendus participants des bienfaits que Christ a procurés, mais en nous les appliquant. Ce qui est l'œuvre surtout de Dieu, le Saint-Esprit. C'est lui qui fait cela. C'est la rédemption. Le catéchisme élargi 59 dit, la rédemption est certainement appliquée et communiquée efficacement à tous ceux pour qui Christ l'a racheté et qui sont rendus capables par le Saint-Esprit de croire en Christ conformément à l'Évangile. Et quand nous contemplons Est-ce que tu peux vous poser la question de savoir pourquoi suis-je chrétien? Pourquoi suis-je chrétien? Ou bien pourquoi les familles sont gentilles avec moi? Il faut vous demander, dans les Écritures, il n'y a pas de raison pour laquelle nous sommes des chrétiens si ce n'est pas Dieu dans sa souveraineté qui nous a choisis. Il nous a choisis, mais non seulement il nous a choisis, il intervient dans nos vies et il œuvre en nous de telle manière à ce que nous ne trouvions pas l'évangile comme un moyen de résistance. Nous ne pouvons pas résister à la parole de Dieu, mais nous croyons et nous savons que par la puissance de l'Esprit, la bonté, la justice, la plénitude de l'œuvre du salut, nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Nous devons croire parce que Dieu nous a rendu la vie et nous voyons les choses telles que nous ne les voyons pas avant. Dans le verset 125, il dit: je suis ton serviteur, donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. Il a commencé avec la confession. Il dit: je suis en relation avec toi, et sur la base de cette relation, je suis avec toi. Je dis que je suis un serviteur de Dieu. Il dit: nous devons nous poser la question, qui sommes-nous? Pourquoi est-ce que je suis un serviteur de Dieu? Est-ce que je sers véritablement le Seigneur dans la vérité? Nous sommes appelés à servir Dieu. Nous comprenons dans le Nouveau Testament qu'il y a beaucoup de choses qui se passaient dans, plus que dans la pensée de David. Jean 15, verset 15 dit: je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Galates 4, verset 7, ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Et donc le psalmiste dit que je suis ton serviteur, donne-moi la compréhension. Nous pouvons dire cela: je suis ton serviteur et encore ton fils, un enfant de Dieu. Et il plaide la relation qui existe avec lui, entre lui et Dieu. Il plaide sa cause en tant que serviteur de Dieu, dans la présence de Dieu. En tant que serviteur, il demande à ce que Dieu lui donne la compréhension. Il plaide la propriété. Il dit: Seigneur, je t'appartiens. Je veux être mieux si je comprends la parole de Dieu davantage, si j'embrasse la parole de Dieu et si la sagesse de Dieu agit dans ma vie et que je commence à appliquer cela dans les difficultés, les défis de la vie. Si je vois cela sous le prisme de la parole de Dieu, tu le fais pour ton serviteur. Donne-moi de la compréhension. Je suis ton serviteur, donne-moi l'intelligence. Pas, ne fais pas ceci parce que je suis bon, ou bien que tu dois être bon envers les bonnes personnes, non, mais donne-moi cela comme la grâce, afin que toute lecture de ta parole puisse devenir dans ma pensée le sermon que je dois comprendre, et que l'Esprit de Dieu puisse m'amener à comprendre davantage ce que je dois comprendre, et que cela s'applique à ma vie par la parole de Dieu. La compréhension me permet de pouvoir désirer cela. Dans le psaume 25, verset 14, il dit: l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Attendre avec la compréhension, laisser Dieu agir pour qu'il puisse me donner de la compréhension, pour que je puisse connaître ta loi, je puisse connaître ton témoignage. Donne-moi l'intelligence pour que je connaisse la Bible, pour que je puisse pratiquer tout ce qui concerne la Bible. Chaque fois que nous participons et nous commençons notre sermon, quand nous commençons le culte, qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous disons? Nous lisons les Écritures et alors nous prions après. Et dans nos prières, nous demandons à Dieu: Dieu, enseigne-nous, aide-nous à comprendre. Nous sommes faibles, nous sommes des enfants devant toi. Nous demandons que tu nous aides à comprendre ce que la parole de Dieu dit pour que nous l'appliquions à nos vies. Troisièmement, dans le verset 126 au verset 128, donc David aimait la parole de Dieu, la loi de Dieu. Donc il y a un appel ici pour avoir l'action de Dieu. Dans le verset 126, il dit, il est temps que l'Éternel agisse. Il transgresse ta loi. C'est possible qu'un homme, une bonne personne puisse aller contre la loi de Dieu. Cette congrégation le fait. Et donc, le pasteur, le staff, c'est comme si nous disons, quand nous parlons de pasteur et de staff, c'est comme si nous sommes une grande église. Mais quand nous parlons du pasteur, les diacres, les anciens, c'est ceux qui sont considérés comme de bonnes personnes. Eux aussi, ils ne suivent pas la loi, ils désobéissent à la loi. Et ils remplacent la loi de Dieu par leur propre convoitise. L'appel vient de Dieu pour que Dieu puisse défendre, aller et défendre sa propre loi. La religion cherche, et nous supplions Dieu pour prendre notre cas. Amen. Il est temps que Dieu agisse. David dit, il est temps que l'Éternel agisse. Il voit la méchanceté autour de lui et il crie, il dit, Dieu, fais quelque chose, agis, parce que permets à ton peuple d'avoir confiance en toi et détruis ce qui est mauvais. Calvin écrit, en bref, il s'agit d'une prière pour que Dieu remette de l'ordre dans l'état confus et ruineux des choses dans le monde. L'exemple de David, chaque fois que la terre est chargée et souillée par la méchanceté à un point tel que la crainte de Dieu a presque disparu, pour l'appeler, l'invoquer et se montrer le garant de sa propre gloire. Il ne s'agit pas d'un plan personnel ou égocentrique, mais il criait à l'Éternel pour la gloire de Dieu et pour la cause de la terre tout entière. David voit la méchanceté, mais il ne pouvait rien faire et il demande à Dieu d'agir, que Dieu lui-même agisse. Et donc il fait un appel pour que Dieu puisse agir. Il dit, il faut répondre à ta loi qui n'est pas suivie. La confession que David fait, il croit que il aime la parole de Dieu. Dans le verset, dans les deux versets 127 et 128, c'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or et que l'or fait. Qu'est-ce qui est spécial avec de l'or? C'était un moyen de devise, c'était un signe de richesse. Le psalmiste dit, la parole de Dieu, dans mon sens, peut être représentée par de l'or. Si vous voulez une maison, il faut avoir de l'or. Si vous voulez des voitures, il faut avoir de l'or. C'était le moyen par lequel nous pouvons acheter. Vous avez de l'or, vous avez beaucoup de valeur. Et il dit que même si tout l'or du monde est gardé quelque part et on me l'offre au lieu de ta parole, il dit non, moi je vais accepter ta parole plus que de l'or. Parce que ta parole, j'aime tes préceptes. C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or et que l'or fin. C'est la raison pour laquelle je trouve juste toutes tes ordonnances. Et il y a plusieurs personnes qui mettent leur espérance sur l'argent et sur les choses de ce monde. Et c'est leur objectif. Ils aiment tout. La parole de Dieu qui doit gouverner notre et guider notre âme. Il ne faut pas que notre espérance soit mise sur l'or. Pourquoi est-ce que il aimait son âme? Il aime toute la loi de Dieu et c'est important pour lui. Il estime que cela doit être bon pour lui. Il aime la loi et dans la loi, il y a une direction, il y a une voie qu'il faut suivre. Et en le faisant ainsi, nous croissons dans la loi. Et qu'est-ce que nous devons avoir? Il faut être comme Christ. Et si c'est juste comme Christ, plus comme Christ, et notre vie est plus cherchée et plaire au Seigneur et mettre notre vie au Seigneur, commencer. Et ça, c'est important. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui constitue de l'or pour nous. Quand vous voyez la parole de Dieu et que vous lisez la parole de Dieu, Pourquoi la loi est mieux? Il aime la loi de Dieu. Il se plaît à faire ce que Dieu demande. Il peut acheter des choses avec de l'or, mais il ne peut pas savoir ce qui plaît à Dieu. Si vous aimez Dieu, c'est plus précieux de plaire à Dieu que de plaire à des hommes. Le fruit et l'évidence de la loi, c'est qu'il déteste tous les péchés et tout ce qui est fausseté. Et c'est ce qui veut dire que la parole de l'Éternel vaut mieux que de l'or. Et quand il dit, c'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or et que l'or fin et que même le meilleur or. C'est pourquoi je considère tes préceptes, je trouve juste tout ce que tu dis là, tous tes commandements, toutes tes ordonnances, je les trouve juste. Je hais toute voie de mensonge, tout ce qui est contre la pensée de Dieu, la voix de Dieu, je déteste cela. Il ne faut pas aller dire que je déteste des gens, mais c'est bon de détester le diable, de haïr le diable, de haïr le péché, c'est mieux même ainsi. Toute voix qui s'oppose à la voix de Dieu, nous devons détester et haïr cela en tant qu'enfant de Dieu. Il y a des gens qui font des choses qui ne les amènent pas à détester le mal et ils tombent dans le mal. Il faut amener les gens à ne pas mépriser la doctrine du salut et il faut les amener à pouvoir les prophètes se forcent de se surpasser les uns les autres pour calomnier la doctrine du salut et se forcent de jeter le mépris sur la parole sacrée de Dieu pour par leur rayurie. D'autres déversent les blasphèmes sans fin. Ils aiment tellement le mal que s'ils ne font pas le mal, ils ne sont pas contents. Et il y a un certain nombre de choses que nous devons retenir. Il y a certaines questions que nous devons nous poser quand nous terminons. Comment est-ce que nous recherchons la délivrance? Le salmiste, quand il lève les yeux, en voyant ça et là, il nous amène à comprendre que nous devons nous détourner du mal, de tout ce qui est mal, et de crier à l'Éternel de rechercher sa délivrance. Nous prions l'Éternel, nous demandons qu'il nous protège. Alors, nous crions et nous attendons, nous espérons. Nous espérons avec l'espérance et la confiance parce que nous sommes puissants et nous persévérons parce que Dieu est puissant et c'est lui qui nous amène à persévérer. Nous attendons avec la miséricorde et en attendant le profit de l'Éternel. Il nous fortifie, il nous élargit notre gloire et nous voyons les choses telles qu'elles doivent être vues. Nous voyons les choses comme elles doivent être, pas comme les hommes peuvent imaginer, pas comme nous pouvons imaginer, mais nous comprenons parce que l'Esprit de Dieu nous donne la compréhension, la sagesse pour que nous ne soyons pas des gens insensés. Un homme avec sa Bible, par la grâce de Dieu, nous allons être rendus sages. Nous aimons la loi de Dieu et nous détestons tout ce qui s'oppose à la loi de Dieu. Que cela soit ma passion et ta passion, que lorsque les gens vont parler de l'église de Fifth Street Presbyterian Church, que les gens disent que cette personne aime la loi de Dieu, aime Dieu et font ce qui est agréable aux yeux de Dieu. Nous recherchons la délivrance quand nous continuons dans la fidélité, espérant ce qui est bien, espérant en voulant faire ce que Dieu veut que nous fassions, sachant que le mal va être détruit. Prions. Notre Père et notre Dieu, nous te disons merci pour la manière dont tu nous as enseigné, bien que nous ayons écouté la parole qui nous rappelle comment nous devons avoir la foi en toi. Nous comprenons que si nous voulons lutter par nous-mêmes pour comprendre, nous allons demeurer stupides et insensés dans beaucoup de choses. Mais Père, nous demandons que tu fasses miséricorde et que tu nous enseignes pour que nous puissions nous réjouir. Père, nous prions que ta grâce se manifeste dans chacune de nos vies pour que nous qui luttons, continuons à lutter avec le péché, que nous puissions continuer et que ta miséricorde que tu nous libères et que tu nous amènes à vivre. Et nous allons chercher à vivre dans la sainteté, comme le psalmiste a crié, Seigneur, que tu nous aides, que tu nous protèges, que tu nous défendes et que tu nous aides dans l'alliance à être notre sauveur et notre Seigneur. Cette prière, nous la faisons au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen.